Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être présent parmi vous. Merci de l'invitation à laquelle j'ai naturellement répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Donc pour un duo avec Nicolas, alors peut-être sur la première partie, la partie la plus historique, c'est un peu à ce titre-là qu'on va convier aujourd'hui, et peut-être un trio avec Christian pour la partie concernant les enjeux d'avenir du territoire. L'objectif était de donner quelques points de repère géographiques, mais surtout historiques, pour bien comprendre ce territoire, en l'occurrence le Royan, pris sous une double approche, peut-être des questions économiques, et puis la question des relations avec les territoires voisins. Donc effectivement, la première slide a un titre particulièrement ambitieux, Histoire du Royan, le tout en 10 minutes, donc inutile de dire que ce sera un rapide survol. Peut-être donner quelques clés pour bien comprendre ce territoire. Alors vous avez tout d'abord, d'un point de vue géologique, donc le Royan, qui est une zone de piémont, entre, donc c'est le rectangle rouge sur donc la carte de gauche, qui est donc une zone de piémont, hein, le Royan, Saint-Jean-Royan, c'est 200 mètres d'altitude, en fait, qui est compris entre, d'une part, donc, à droite, le massif du Vercors, qui est un massif de moyenne montagne, dont on reparlera tout à l'heure, et d'autre part, à gauche, la rivière de l'Isère. Voilà. Donc cette confrontation, là, on l'a, hein, on voit donc ça, une photo au premier plan, vous avez Saint-Jean-Royan, et au fond, donc, on aperçoit les montagnes du massif du Vercors. Donc la montagne, la rivière, deux éléments importants, j'y reviendrai. Quand on regarde ce territoire d'un point de vue historique et peut-être administratif, en tout cas la situation qui prévaut à la Révolution, quand les cantons sont créés, donc vous avez, alors je ne sais pas si c'est particulièrement clair, mais vous avez donc sur la partie massif, peut-être la carte de droite, sur la partie massif, vous avez deux cantons qui répondent à deux réalités, donc au sud, le canton de la Chapelle en Vercors, au nord, le canton de Villard-de-Lans. Le massif du Vercors n'est pas un massif unifié, loin s'en faut. Les gorges de la Bourne séparent les deux territoires. Et puis, donc, dans la partie ouest du massif, donc dans le Royan, vous aviez historiquement un Royan qui constitue une entité historique, avec un certain nombre de sites médiévaux majeurs, de Beauvoir jusqu'à Rochechinard, mais qui, à la Révolution, ces territoires sont eux-mêmes partagés entre une partie iséroise autour du canton de Pont-en-Royan et une partie de Romoise autour de Saint-Jean en Royan. Donc voilà, un territoire qui est morcelé, mais qui néanmoins... Alors, je ne sais pas quelle est là. Qui néanmoins... Il faut vraiment ne pas avoir à l'esprit l'idée de monde replié sur eux-mêmes vivant en autarcie. On est au contraire sur des territoires qui sont particulièrement connectés entre eux. Quand on se replonge notamment au XVIIIe siècle, le Pont-en-Royan, qui se trouve donc au pied du massif du Vercors, mais dans la partie iséroise, long de la Bourne, est la véritable capitale économique de la région. C'est à Pont-en-Royan qu'un certain nombre, que tous les, enfin, c'est la principale commercial. Il y a des flux commerciaux extrêmement nourris entre le territoire du bas, entre le Piémont et le massif. Des flux commerciaux à double sens. Chaque territoire venant mettre en commerce sur ce marché de Pont-en-Royan les richesses qui sont les siennes. Le Vercors, par exemple, alimente les marchés avec notamment du bois, du fromage, de la laine. Et sur ces marchés, eh bien, les habitants du Vercors se fournissent en denrées ou en produits manufacturés qui ne sont pas produits dans le massif, notamment le vin, puisque la vigne est bien développée dans le Royan encore au XVIIIe siècle. Donc des territoires particulièrement connectés entre eux, avec des échanges très nourris, qui conduisent aussi finalement à réinscrire ces territoires dans des logiques économiques beaucoup plus vastes que le seul territoire. Un exemple, le travail de la laine, alors qui est répandu dans le Royan comme dans le Vercors, hein, donc sous forme d'ateliers domestiques artisanaux. Le travail de la laine, donc la laine qui est à la fois le produit des troupeaux du territoire, mais qui est aussi importée de territoires extérieurs. Cette laine est travaillée donc dans le Royan et dans le Vercors, vendue sur le marché, notamment à Pont-en-Royan, d'où elle est expédiée de fil en aiguille jusqu'au sud de la France, Beaucaire, et où on l'exporte, paraît-il, jusqu'en Turquie et Alexandrie. Donc on est vraiment sur une dimension... en tout cas très large, et ces territoires sont inscrits dans des flux qui les dépassent assez largement. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit. Également, avoir à l'esprit que les deux piliers économiques de ces territoires à l'époque, c'est bien évidemment l'agriculture, On cultive beaucoup de céréales, par exemple, dans le Vercors au XVIIIe siècle, voilà, chose qui a complètement disparu aujourd'hui. Donc il y a de l'élevage, mais une agriculture très diversifiée. Et le Royans se spécialise malgré tout, notamment sur la question de la vigne, j'en ai parlé, et bien sûr des noix qui dès le Moyen-Âge, sont particulièrement produites sur le territoire. Des activités artisanales et domestiques également donc très soutenues. On a évoqué le travail de la laine. On pourrait également évoquer le travail du bois. Néanmoins, ce qui est intéressant à voir, on reviendra sur cette photo plus tard. Bon, il y avait une slide qui évoquait la tradition, l'essor des activités artisanales puis industrielles dans le Royans. Malgré des similitudes en termes de caractéristiques socio-économiques de ces territoires et leurs spécificités, il y a une spécificité qui se développe fortement dans le Royans dès le XVIIe siècle, c'est la naissance donc, d'une forme de toute petite industrie. Porté tout d'abord donc, au XVIIe siècle dans un contexte particulier où la sidérurgie progresse fortement dans le Dauphiné. Le Vercors va avoir un rôle à jouer parce que la sidérurgie est très consommatrice de bois. Donc effectivement, les forêts du Vercors vont être abondamment exploitées. Mais le Royans a un certain nombre d'atouts, de vertus qui vont donc conduire ce territoire a développé déjà des prémices de formes artisanales et industrielles en matière de sidérurgie, avec un certain nombre de forges et de martinets, donc de bouvantes jusqu'à Rovan, en évoquant aussi la fonderie de canons qui s'installe à Saint-Gervais. La particularité du Royans, c'est ce que j'évoquais en introduction, c'est qu'il est effectivement au pied du massif du Vercors, donc dans l'absolu plus accessible, notamment en termes de transport que ne l'est la montagne. Mais cette proximité avec le massif lui permet de jouir de deux ressources importantes. La première, c'est la ressource forestière, c'est-à-dire qu'on charbonne le bois dans les montagnes et on le descend assez facilement dans le Royans pour faire fonctionner ces industries. Et deuxième ressource, Christian l'a évoqué, la ressource hydraulique, indispensable au fonctionnement de ces premières entreprises. Donc ces deux éléments, cette configuration favorable explique l'implantation d'un certain nombre donc, d'ouvrages dans le Royans. Et la rivière de l'Isère est un axe très important pour tout ce qui est évacuation ou importation des productions. Et donc, du coup, dès le fin 17e, début 18e siècle, un certain nombre donc, d'activités sidérurgiques se développent sur le territoire. Je passe rapidement. Dire que cette activité industrielle va fortement se développer dès le 18e siècle, autour de deux piliers qui ont été évoqués par Christian. Premier pilier, c'est le textile. Dans le prolongement de cette activité de rapière domestique qui s'était développée dès le XVIe siècle, au XVIIIe siècle, donc, c'est tout d'abord la sériciculture qui se développe dans le Royans. Donc, on a ici une ancienne magnanerie voilà, qui avait été construite à cette époque-là pour l'élevage des vers à soie. Donc, une importante activité industrielle autour du textile et du tissage qui se développe dans le Royans. Avec un certain nombre donc, de sites qui vont construire. Vous allez tout à l'heure aller visiter la friche qu'on appelle aujourd'hui Ancessi, mais qui en fait a émergé dans ce contexte d'industrie textile. Encore une autre friche, la friche Chola-Lamy à Saint-Jean-Royans. Donc vraiment un ancrage très fort d'activité textile sur ce territoire, qui va finalement survivre à la fin de la sériciculture, à la fin du XIXe siècle, puisqu'à partir du XXe siècle, notre forme de tissage perdure sur le territoire avec des industriels qui travaillent à façon pour de grandes industries lyonnaises. Et vous avez par exemple l'usine Ballet à Saint-Laurent-en-Royans qui est encore un vestige de cette aventure. Donc un premier pilier, l'industrie textile dans le Royans. Deuxième pilier, qui est encore une fois aussi le prolongement d'anciennes activités domestiques, tout ce qui concerne le travail du bois. Alors là, ça, donc effectivement, l'homme a toujours abondamment utilisé la ressource forestière du territoire. Et donc, à partir du XIXe siècle, cette production qui était jusqu'alors domestique et artisanale évolue fortement avec le développement d'un certain nombre d'industries alors qui ont été introduites dans le territoire par alors la légende veut que c'était un maillet qui était jurassien d'origine et qui a créé donc la première tabletterie-tournerie alors juste à la limite entre la Drôme et l'Isère à Saint-Jean entre Sainte-Eulalie et Pont-en-Royans. Je ne sais pas s'il y a des photos, non je crois pas. Et donc, cette activité va fortement essaimer partout sur le territoire, à Saint-Jean, à Saint-Laurent. Et ces activités autour du bois vont donc constituer le deuxième pilier donc, de l'activité industrielle de ce territoire. Encore une fois, avec un certain nombre de vestiges. Le siège de la communauté de communes était autrefois un bâtiment de l'usine Borel, qui a été réinvesti, alors qu'il fabriquait des cuillères à l'époque. On reviendra peut-être sur la question des friches et ce qu'elles sont devenues par la suite. Voilà, on aurait beaucoup de choses à dire sur la toponymie, sur l'architecture de Saint-Jean-Royan, sur les comportements politiques du Royan à cette époque-là, qui illustrent ce passé industriel. Voilà, on y reviendra peut-être si vous avez des questions. Autre élément important à avoir en tête quand on évoque ce territoire, notamment le lien avec les territoires qui l'entourent, donc c'est l'aventure de la construction des routes au XIXe siècle. Voilà. Alors ça concerne effectivement plutôt la partie massif, hein, donc c'est la construction de ces grandes routes, les Grands Goulets, Combe-Laval, les Gorges de la Bourne, donc qui sont en fait dans le prolongement de ces échanges ancestraux entre la montagne et ses piémonts. Mais comme les chemins qui étaient jusqu'alors utilisés ne sont plus suffisants pour absorber le trafic, eh bien, la technologie aidante, de grands chantiers sont engagés donc, dans la seconde moitié du 19e siècle. Vous avez en bas à droite une des plus emblématiques de ces routes, hein, qui est la route de Combe-Laval, qui vont avoir de vrais... La construction de ces routes va avoir des impacts assez forts en matière d'aménagement du territoire, y compris dans le Royan. Les élus du Royan vont se battre férocement pour le percement des petits goulets, pour s'assurer un débouché direct avec le Vercors, alors que les élus du Vercors défendaient plutôt un passage par un autre chemin qui aurait permis un débouché direct sur Pont-en-Royan. Des villages vont être complètement reconfigurés. Hein. Le village de Sainte-Eulalie, par exemple, va être déplacé. L'église va être démolie et reconstruite pour justement intégrer ces nouveaux flux. Nouveau flux, notamment parce que l'une des conséquences les plus massives de la construction de ces routes au XIXe siècle, c'est l'apparition d'une nouvelle activité économique, le tourisme, avec un développement beaucoup plus prononcé dans le Vercors que dans le Royan, mais malgré tout avec un certain nombre d'initiatives que l'on voit aussi poindre dans le Royan. Deux autres sujets concernant le XIXe, début XXe siècle dans le Royan, le tram. Voilà, il y a un tram qui va être amené qui est jusqu'à Sainte-Eulalie en Royan, et on conserve encore sur le territoire un certain nombre de vestiges de cette aventure du tram, notamment des gares et un pont qui va devenir un support à des futures mobilités douces. Et puis deuxième aventure, juste pour mémoire, là vous avez Saint-Nazaire en Royan, c'est la construction du canal de la Bourne, hein, qui vise à capter l'eau donc de la Bourne pour irriguer la plaine valentinoise. Et donc là, vous avez l'aqueduc, qui est quand même un élément identitaire fort de ce territoire, au premier rang, donc qui traverse là la commune de Saint-Nazaire-en-Royan. J'avance rapidement et sans aucune transition, on fait un saut. Là, on arrive dans les années 1960, moment où l'industrie commence sérieusement à péricliter, enfin commence à péricliter dans le Royan. Donc c'est l'implantation de centres médico-sociaux. Alors voilà, c'est dans le Royan, c'est les établissements de la MGEN, hein, la mutuelle, qui a construit ces centres à Saint-Nazaire, puis ensuite à Saint-Thomas et à Saint-Laurent-en-Royan, et qui vont donc être de très gros pourvoyeurs d'emplois. Voilà. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à la fin des années 1970, le Royan, qui avait une économie extrêmement productive du fait de son agriculture, mais surtout du fait de l'industrie, voit un vrai basculement avec désormais une économie qui peut être de plus en plus massivement qualifiée de présentielle. Et l'implantation donc de ces centres sur le territoire y a évidemment fortement contribué, d'autant qu'elle a aussi donc accompagné d'une part l'extinction donc progressive de cette activité industrielle, mais également de profondes évolutions en matière d'agriculture, puisqu'on a quand même assisté au cours de ces dernières décennies à une forme de monoculture de la noix. Il y a de plus en plus de terrains qui sont plantés de noyers. Et donc l'agriculture, qui était historiquement très diversifiée dans le Royan, s'est de plus en plus spécialisée dans la production de la noix. Pour terminer, deux mots rapidement sur le fait que ce territoire du Royan est imbriqué dans un certain nombre de découpages administratifs qui finalement témoignent aussi de ces liens séculaires donc, entre le Royan et le Vercors. Pour ça, il faut rapidement évoquer la question du Vercors en tant qu'entité. Très rapidement, hein, je vous l'ai dit, au XIXe siècle, le Vercors, quand on parle de Vercors, c'est le canton d'Achapelle-en-Vercors, donc c'est les 5 communes situées à droite de la carte. Et le massif en tant que tel n'est pas une entité, elle n'a pas de nom. Vous avez la Chapelle-en-Vercors au nord, Villard-de-Lans au sud. Le XXe siècle va être un tournant de ce point de vue-là, puisque le massif va devenir une entité clairement identifiée à la notoriété nationale et internationale. Et pour cela, trois étapes. La première étape, c'est la construction des routes au XIXe siècle et le développement du tourisme. Et les premiers regards globalisants sur cette entité géomorphologique qu'est le massif, ça va être sous la plume d'un certain nombre d'érudits ou de guides touristiques. Plus, je n'oublie pas évidemment, nous avons un géographe dans la salle, tout le travail que l'école de géographie alpine basée à Grenoble va conduire avec Raoul Blanchard et Jules Blache pour donc renforcer cette vision globalisée du massif du Vercors qui n'était pas jusqu'alors dénommé de cette façon-là. Donc ça, c'est vraiment la première étape, hein, le tourisme et le travail des géographes. Deuxième étape, c'est la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc avec un maquis qui se crée dans le Vercors dès le début de l'année 1943. Le maquis qui va donc prendre le nom de Vercors. Et donc, je passe rapidement sur l'histoire du maquis du Vercors. Hein. Mais ces deux phases, une phase extrêmement héroïque avec la création du maquis, avec l'effervescence post 6 juin 1944, et puis une deuxième phase, la phase la plus dramatique avec l'offensive allemande qui anéantit le maquis avec plusieurs centaines de morts. Déjà, quand on regarde le fonctionnement du maquis du Vercors au quotidien, les liens historiques entre le Royan et le Vercors, on les retrouve. Hein. C'est un ancien maire de Saint-Jean-en-Royan, Benjamin Malossagne, qui crée un camp à Vassieux. Et il y a énormément de porosité entre les deux parties de ce territoire. Donc le Royan fait partie de cette aventure du maquis du Vercors, notamment parce qu'il en subit aussi les foudres. Hein. Saint-Jean est bombardé dès le mois de juin 1944. Et Saint-Nazaire-en-Royan et Beauvoir-en-Royan sont deux endroits, deux villages particulièrement cités, notamment pour les exactions qui sont commises à la fin du mois de juillet 1944. Et cette histoire tragique, ça confie une très forte notoriété au massif du Vercors. Et donc, on considère que c'est vraiment la deuxième étape dans l'ancrage de ce nom Vercors à l'entité massif. Donc, le tourisme et les géographes, le maquis. Troisième étape, la création du parc naturel régional du Vercors en 1970, qui finalement va, dès l'origine, intégrer dans son périmètre. Donc là, c'est le périmètre le plus grand que vous avez sur la carte. Intégrer bien évidemment le massif, les deux cantons dont je parlais, mais aussi ses piémonts, prolongeant finalement les liens historiques que la partie haute avait avec les piémonts, donc à l'est le Trièves, au sud le Diois, et bien évidemment à l'ouest le Royan, tant en Drôme qu'en Isère. Donc c'est un contexte particulier hein, de déprise dans les années 1970, avec une économie locale qui était durement affectée, une agriculture que l'on présente comme déclinante, et puis un tourisme qui est un peu triomphant, un peu trop pour certains, puisque l'objectif de la charte du parc, telle que les choses sont formulées, était de transformer le tourisme, en parlant du tourisme, pardon, d'envahissement en fréquentation. Donc on était déjà dans ces tensions autour de l'activité touristique, et quand on entend certains débats actuels, ça fait du bien aussi de se replonger dans ces textes un peu anciens qui démontrent que finalement, ces tensions, elles sont consubstantielles même de la vie économique de ce territoire. Voilà, je pense que j'étais trop long. J'en terminerai juste par donc le périmètre qui apparaît de manière un peu plus claire sur le territoire, c'est le territoire de la communauté de communes. Historiquement, il y avait une communauté de communes dans le Royan et une communauté de communes dans le Vercors. C'est désormais donc la communauté de communes du Royan-Vercors. Et donc, on voit ce Royan-Drôme et Saint-Jean-en-Royan qui est pris donc dans une multiplicité d'échelles, la communauté de communes, le parc. Et on pourrait également rajouter le canton, puisque ce canton, désormais, intègre le Vercors, le Royan, et va donc jusqu'à Châtuzange-le-Goubet, aux portes de l'agglomération romanaise. Voilà.